Des ondes vocastes.
Des ondes vocastes.
L'univers de la radio.
L'univers de la radio.
En podcast.
En podcast.
Salut à tous. Des ondes vocastes, c'est le podcast qui parle de radio et de podcast. C'est Julien Vigier, ravi de vous retrouver pour l'épisode du mois de mars. Au menu, la grande interview de Max, le star system des années Fun Radio. Il est devenu speaker pour l'équipe de France de foot. On va lui demander ce qu'il devient et surtout ce qu'il écoute à la radio. Rémi Bertolon a enquêté car du côté de Nostalgie, un studio a fait peau neuve et ça nous a bluffé les coulisses techniques de ce nouveau studio dans notre podcast avec en invité Mathieu Guinet de chez Énergie. Rémi qui a pris le temps également d'écouter la radio anglaise pour savoir si ça passe plus ou moins de pubs que chez nous, réponse un peu plus tard. Et Olivier Audoux dans tout ça, il n'est pas à la présentation du podcast ce mois-ci car il est en partance.
Des ondes vocastes.
Bah oui, je t'ai laissé la main parce que je prépare mon départ pour les Radio Days Europe, les Radio Days Europe en accent franco-français. Qu'est-ce que c'est les Radio Days Europe? C'est la plus grosse conférence consacrée à la radio, mais aussi à l'audio et au podcast, bien entendu. Il y a plus de conférences qui sont uniquement focalisées sur la radio. On en parle chaque année des Radio Days Europe. C'est une conférence qui est relativement encore peu connue du public français, tout simplement parce que les conférences sont toutes en anglais. Et puis il y a un aspect qui est très européen. Et c'est vrai que les Français, ils ont aussi leur salon, le Paris Radio Show. Les Radio Days Europe, ça a l'avantage de réunir toute l'industrie radio au niveau européen. Alors, souvent, on peut se dire, pourquoi aller sur un salon européen au final, vu que on se connaît, nous, en France, on a nos techniques qui sont bien éprouvées, etc. Moi, j'y vais tous les ans. Des ondes vocastes est partenaire de cet événement. C'est un événement payant. Alors, vous pouvez regarder les prix des tickets sur radiodayseurope.com. Nous, en tant que partenaire, on vous offre 50 euros de réduction si vous utilisez le code DOV24 MUN, MUN comme Munich, ça se passe à Munich, du 17 au 19 mars. Mais ça vaut le coup d'aller voir parce que, moi j'y vais tous les ans et à chaque fois j'apprends des choses. Il y a énormément de sujets, on peut se dire, les industries radio au final, parce qu'on a nos propres cultures, on a nos propres façons de faire de la radio, et puis des fois on pense, on est peut-être un peu meilleur que les autres. Faut pas du tout penser comme ça parce que moi j'y vais tous les ans et tous les ans j'apprends des choses nouvelles. Alors déjà il y a des enjeux qui sont communs bien sûr au niveau du numérique, la nouvelle façon de faire des revenus, tout ça c'est des problématiques qui sont au final communes à tous les pays européens, mais pas que, même sur les contenus bien sûr il y a des particularités culturelles dans chaque pays, mais on apprend énormément de nos pays voisins bien sûr, après on l'adapte à notre propre culture, mais il y a toujours des choses à apprendre, des nouvelles façons à atteindre les jeunes audiences, etc. Un programme encore très riche, plus d'une centaine d'intervenants pendant 2 jours, c'est incroyable. Et c'est pas des petits intervenants, c'est vraiment la crème de la crème, les gros dirigeants des radios. Alors, il y a pas beaucoup de speakers, d'intervenants qui sont français. On a quand même 2 personnes de Radio France. On a Mathieu Beauval, donc en charge du numérique, et on a aussi Charles-Emmanuel Bon, qui est le secrétaire général de Radio France. Donc pas rien. On l'avait invité dans ce podcast plusieurs fois. Et puis aussi à noter la présence de Bertrand Spinelli de Skyrock, qui est en charge de la régie de Skyrock et qui donc va parler de revenus. Voilà, c'est vraiment 3 personnes pour le public franco-français, mais sinon il y a plus d'une centaine d'intervenants vraiment de tous les sujets, de tous les pays, et puis encore une fois des très très beaux intervenants. Tout est millimétré, le programme est toujours très très en vogue avec les sujets du moment. Alors si vous êtes jamais allé au Radio Days Europe, je vous conseille vraiment d'aller voir le programme et de vous poser la question si ça vaut le coup d'y aller. Nous, on y sera et puis on vous fera un débrief le 1er avril. Mais encore une fois, ça vaut peut-être le coup, si vous ne l'avez jamais fait, d'aller faire un petit tour à Munich du 17 au 19 mars.
Les salons, Olivier, ta grande passion.
Oui, Julien, puisqu'on parlait salons, le mois dernier, on était au Paris Radio Show, le Paris Radio Show. Fantastique, le retour du salon de la radio et très 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 réussi. Tout le monde est venu, vraiment, on a vraiment vu tout le monde, énormément d'exposants, énormément de monde. Beaucoup beaucoup de conférences. Alors les salles étaient un petit peu éparses dans le nouveau lieu, la Bellevilloise, mais honnêtement c'était super sympa. On a vraiment passé un super bon moment. Ça faisait du bien de voir toute la famille réunie et puis vraiment que tout le monde avait répondu présent à l'événement. Eh ben, un des événements qu'on a eu au Paris Radio Show, eh bien, ça a été l'annonce incroyable, eh bien, d'un rapprochement entre le SNRL et la CNRA. Eh bien, oui, les deux syndicats historiques de la radio associative. Ça fait 40 ans qu'ils coexistent, eh bien, depuis l'éclosion des radios libres. Alors, ils ont déjà collaboré ensemble dans le passé sur de nombreux sujets, notamment depuis l'arrivée du numérique où il y a beaucoup de sujets en commun, hein. C'est pas des familles antagonistes. Et d'ailleurs, eh bien, voilà, c'est la première fois qu'ils annoncent un certain rapprochement en créant une entité commune. Alors, les deux syndicats soulignent bien qu'ils vont rester indépendants avec chacun leurs prérogatives et leur radio membre. Mais c'est vraiment un rapprochement là avec la création d'une entité. Ça s'appelle ALL, Association Les Locales, eh bien, pour travailler sur des sujets communs. Eh bien, pendant le Paris Radio Show, eh bien, le 6 février, c'était la veille de la signature officielle de la création de cette association. C'était sur le salon, c'était le 7 février. Eh bien, nous, la veille, on a interrogé deux membres du SNRL et de la CNRA pour nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle entité, Association Les Locales. On écoute.
Des ondes vocastes.
Alors donc, nous sommes au salon de la radio, le Paris Radio Show. Alors, les gens ici le disent en français, le Paris Radio Show. Donc, nous sommes au Paris Radio Show et nous sommes avec, alors, le coprésident de la CNRA, Farid Boulassel. Bonjour.
Bonjour.
Et aussi avec, alors je ne sais pas si tu es président, tu es
délégué général.
Tu es délégué général du SNRL, Christophe Bettbeder. Et alors pourquoi je vous ai accueillis tous les deux aujourd'hui? Parce que petite nouvelle aujourd'hui, même énorme nouvelle sur le salon, la CNRA et le SNRL vont se rapprocher.
C'est ça, la CNRA et le SNRL vont effectivement se rapprocher. On travaillait déjà depuis de nombreuses années avec le SNRL sur des projets communs de représentation, mais surtout en fait de défense du secteur. Et l'idée a été de dire en fait aujourd'hui on a besoin d'être beaucoup plus fort pour représenter nos radios. Il y a plus de 700 radios associatives en France. Elles attendent effectivement de la part de leurs syndicats respectifs qu'elles représentent leurs intérêts. Et du coup, on a décidé donc de créer une structure, les locales, qui va du coup pas fusionner, hein, parce que chaque entité, la CNRA et le SNRL, garderont leur identité propre. Mais il était important effectivement qu'on soit raccord, j'ai envie de dire, pour défendre l'intérêt du secteur. Donc nos deux syndicats donc ont donc travaillé sur la création de statuts d'une association qui s'appellera Les Locales, et des représentants vont siéger dans cette structure associative qui défendra les intérêts des deux syndicats, mais surtout les intérêts des radios associatives.
Alors, ça c'est et au niveau SNRL, donc vous êtes donc aussi dans cette initiative rapprochement. Jusqu'à est-ce que Christophe, est-ce que dans quel niveau d'intégration, enfin ou de rapprochement, ça va jusqu'où vous allez aller en termes de rapprochement? Est-ce que ce sont des premiers essais et vous allez mettre des chantiers en commun et puis dans un an vous ferez un bilan et vous déciderez s'il faut encore s'intégrer encore plus?
Ben voilà, on va voir, c'est en faisant que, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il paraît. Bon, à vrai dire, le rapprochement, il a été naturel, comme l'a dit Farid, hein, ça fait des années. Alors peut-être encore plus depuis le Covid, parce qu'on a été confronté à une situation particulière qui nous a amené, alors, au-delà des sujets classiques, du FSER, etc., de mener des enquêtes auprès des radios en commun pour voir comment elles vivaient la situation, etc. Et il y a des rapprochements aussi interpersonnels parce qu'on a appris à se connaître, etc. Et il y a un environnement aussi, il y a un contexte qui fait, j'allais dire qu'on est obligé, je sais pas si le terme obligé est le plus juste, mais il y a le grand champ de la radio qui est en train de se mettre en place au niveau de la convention collective. Aujourd'hui, il existe un champ de la radiodiffusion privée auquel n'appartiennent pas Radio France et les grands groupes nationaux commerciaux. Donc, il y a une volonté de créer un grand champ. Donc, on est amené de plus en plus à discuter là-dessus. Il y a une recomposition du secteur de la radio qui, de toute façon, nous amène à nous croiser. Alors, que donnera l'avenir, on verra. Chaque structure a sa fonction, hein. D'ailleurs, on a des projets en commun et des projets que portent chacune des structures et des services qu'on offre aux radios différents. Et dernièrement, ce qui a en plus conduit encore plus naturellement, c'est qu'on a des projets communs. On a lancé une grande enquête nationale autour de l'éducation aux médias pour mettre en valeur et surtout en lumière le travail qui est mené par les radios associatives en matière d'éducation aux médias. On considère qu'on est le média historique, radio associative, et qui fait alors le plus, en tout cas partout sur le territoire, de l'éducation aux médias auprès de tous les publics. Mais ça, on n'a pas encore d'éléments chiffrés, objectifs, qui nous permettent de le montrer, en fait, de l'illustrer. Donc ça, c'est un travail qu'on a engagé depuis quelques mois déjà, hein, et qui est en cours. Donc voilà, c'est à la fois des actions concrètes et à la fois le contexte qui fait et l'historique de ces derniers mois qui a fait que le rapprochement, il nous a amené à créer cette structure qui amène en fait une base qui peut nous permettre ensuite de voir ce qu'on peut faire ensemble.
Alors, parmi les grands chantiers, hein, j'imagine, chez les radios associatives, c'est notamment aussi tout ce qui est diffusion. Et quand je dis diffusion, hein, c'est tous les sujets. Il y a le broadcast, mais il y a aussi être la présence sur les plateformes et sur l'IP. Est-ce que ça fait partie des chantiers de travail sur lesquels vous avez travaillé ensemble via cette nouvelle entité, Les Locales?
Alors, ce sera pas le chantier prioritaire, parce qu'en fait, on est déjà sur effectivement la question du broadcast. On a déjà travaillé ça, je pense, de concert dans nos deux syndicats respectifs. Pour nous, les chantiers prioritaires sont plutôt des sujets autour de l'ARCOM, le DAB+. Ça va plutôt être, comme le disait mon collègue, en fait, la question en fait de la représentativité patronale. C'est là-dessus, en fait, c'est des chantiers effectivement qui nous paraissent en fait aujourd'hui prioritaires. Le podcast aujourd'hui, la plupart des radios se sont appropriés ces outils-là. C'est pas là-dessus qu'on nous attend. On nous attend plutôt sur des chantiers un peu plus conséquents. Le FSER, bien évidemment, aussi. Aujourd'hui, nos radios, on parle beaucoup de la question du pouvoir d'achat, les charges qui augmentent. Aujourd'hui, on a besoin de représenter et de défendre les intérêts de nos radios, plutôt sur ces axes-là plus importants. Et après, travailler en effet sur des axes autour de l'EMI, faire bien comprendre effectivement à différents acteurs que les radios associatives sont sur ce champ-là depuis plus de 20 ans déjà, et qu'il y a une expertise de nos radios sur le terrain autour de comment on appréhende effectivement l'éducation aux médias, ce qui est que beaucoup de gens ont découvert il y a 5 ans. Ce rôle important, il est important pour nous de le faire comprendre à tous les acteurs sur les territoires et bien évidemment aux ministères respectifs qui sont la culture et l'éducation nationale.
Alors, dans les aspects pratiques, alors aujourd'hui, le jour de l'enregistrement de cette interview, donc on est le deuxième jour du Salon de la Radio, le 7 février, vous allez concrètement signer, j'imagine, les statuts de cette nouvelle organisation aujourd'hui, donc avec vos présidents respectifs des deux associations. Après, comment va se passer la gouvernance de cette nouvelle entité?
Alors, c'est une gouvernance partagée, 50-50. Voilà, on n'est pas rentré dans des questions de représentativité, etc. C'est pas du tout l'idée. Donc on aura un conseil d'administration représenté à moitié-moitié par des représentants de la CNRA et du SNRL. L'idée, c'est, il y a aussi des radios, je dirais, non fédérées. Donc l'idée, c'est de toute façon d'ouvrir nos discussions, en tout cas à l'ensemble du secteur de la radio associative. Mais la gouvernance restera partagée entre CNRA et SNRL.
D'accord. Un dernier mot sur votre stand. Vous avez une initiative qui est liée à la flamme olympique. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'en parler?
Donc c'est encore effectivement une initiative qu'on a co-organisée. Donc en fait là l'idée c'est de suivre le parcours de la flamme olympique et que sur chaque territoire en fait on lance un appel à production pour suivre du coup cette flamme et avoir des sujets un peu assez élargis. Autour du sport féminin, du handicap. Chaque radio va déposer en fait des contenus de 2 à 3 minutes qui permettront effectivement par le biais des radios vives de suivre aussi le parcours de cette flamme avec des sujets réalisés par nos radios locales associatives sur les territoires.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Farid Boulassel, coprésident de la CNRA, et Christophe Betbeder, délégué général SNRL.
Des ondes Vocast.
Max, le Star System sera avec nous juste après Rémi Bertolon. C'est à toi Rémi. Tu animes le très bon voice track Rémi et Jam et tu t'intéresses aujourd'hui à la recette des radios de Londres.
Oui Julien, on a écouté les radios anglaises. Alors vous l'avez entendu, on dit souvent que les radios là-bas sont solides en termes d'audience. Et du coup, je voulais savoir si les radios dites commerciales diffusent plus de publicité que chez nous. C'est souvent montré du doigt, effectivement, ici en France. Alors, pour cette démonstration, on a écouté Smooth Radio et Capitol. Et pour la radio française, on a pris Énergie et donc le flux parisien. Cette écoute de pige a été réalisée le 27 février à 10h, en prenant compte, évidemment, du décalage horaire. Il est donc 10h en Angleterre et 10h en France. Allez, on commence avec Smooth Radio, tout simplement parce que c'est le conducteur qui m'a le plus impressionné. Ça commence toujours pareil, pile à l'heure, vous avez le top horaire, les infos toutes les heures, et ensuite la relance avec l'anime.
On your radio, on Global Player, and on your smart speaker. Play smooth. This is Smooth Radio.
From Global's newsroom at 10 o'clock, a report by MPs.
Donc, il est 10h, c'est les infos. À la fin, c'est l'animatrice qui va lancer, écoutez bien, 40 minutes de musique sans interruption.
This is Smooth Radio.
From Global. Morning, Tuesday the 27th of February. Where is this month going? It's Kate with you on Smooth, kicking off with Steve Winwood.
Always the best music for the UK. Smooth
Radio. Alors oui, les 40 minutes sans pub existent en France, mais là, en les lançant à l'heure pile juste après les infos, c'est clair et limpide pour l'auditeur. L'animatrice intervient évidemment à 13, un speak court.
That is Dido on Smooth this Tuesday morning. And I'm going to say it. Boy, is it cold. I can't feel my fingers, they haven't warmed up yet. What happened to spring? Anyway, while I wait for the heating to kick in the studio, shall we enjoy a bit of Stevie Wonder?
Et 10 minutes plus tard, elle revient pour une intervention sur Ramp. Hein, ça redémarre direct avec la musique. Et enfin, 10h40, la pub.
Music from Otis Redding, Wet Wet Wet, and Stephanie Mills, all on the way.
Et c'est là que ça devient intéressant. On est parti pour 3 minutes 40 de publicité et ensuite, retour de la musique. Et là, les titres vont s'enchaîner. 10h56, pas tout à fait. L'animatrice revient rapidement et lance une deuxième vague de pub.
65588, if you want to get in touch. I've got music from Phil Collins and Michael Bublé coming next.
On est sur le même format, 3 minutes 40 de publicité. On a annoncé la musique, mais avant cela, on tombe pile sur le top horaire de 11h et les infos.
On your radio, on Global Player, and on your smart speaker.
Play smooth.
This is Smooth Radio.
Et donc, pendant une heure, au total, l'auditeur de Smooth Radio a écouté 7 minutes et 20 secondes de publicité. Sur Capitol, l'organisation est différente. Il y a 3 plages de publicité. Je vous laisse quand même le topage parce que ça envoie un Capitol.
This is Capitol.
From Global. Good morning, happy Tuesday, starting as we mean to go on. Sophie Ellis-Bextor is up. This is Murder on the Dance Floor playing on Capitol.
UK's number one.
Hits music station.
You're on Capitol.
Alors là, vous avez 3 écrans publicitaires sur l'heure. Et comme ils sont plutôt longs, ils seront répartis sur l'ensemble de l'heure. Premier écran à 11, le deuxième à 36 et le troisième à 55. Ça fait un total de 11 minutes de publicité. C'est un tout petit peu plus que Énergie. À la même heure, entre 10h et 11h, il y a 2 écrans. Le premier est beaucoup, beaucoup plus long. Hein. C'est vrai, il dure 6 minutes, enfin 5 minutes. On a ajouté 1 minute de pub locale. Et le deuxième écran de 4 minutes 40, ça fait donc un total de 10 minutes et 40 secondes. C'est à pas grand-chose, un tout petit peu moins que Capitol.
Des ondes Vocast.
On profite encore un petit peu de toi, Rémi, parce que ça sent le neuf dans un des studios de la rue Boileau.
Et oui, c'est le cas de le dire, avec ce nouveau studio chez Nostalgie. Et comme on était vraiment impressionnés en regardant les images, on s'est dit que ça serait bien d'avoir Mathieu Guinet qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es chef de projet Énergie Audio. On va essayer de comprendre un petit peu les nouveautés d'un point de vue plus technique hein, sur ce studio Nostalgie. En plus, ça marque les 40 ans de la radio. C'est un joli symbole. Alors, d'après ce que j'ai compris, le premier défi, c'est la taille du studio. Parce que quand on regarde les images, ça paraît très, très grand. C'est 17 mètres carrés. C'est au final juste, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ben, enfin, ici, on est dans un immeuble où il y a beaucoup de choses. C'est un immeuble un peu historique. Et c'est vrai qu'ici, les enjeux, souvent, c'est les questions de place et de hauteur de plafond. C'est des vrais enjeux parce que ben en fait on a des espaces qui sont limités dans lesquels on essaie de faire le au mieux tu vois sans pousser les murs donc oui là sur ce studio en l'occurrence ça a été un défi parce qu'on a 17 mètres carrés de souvenirs Et en fait, il fallait que voilà, chacun soit confort, qu'on ait de la place pour faire un petit show, un morning, que ça soit aussi confort pour la partie réalisation, parce qu'il y a beaucoup d'autoréal toute la journée, enfin d'animateurs qui sont DJ, donc voilà, qu'il y ait une partie visuelle, une partie vidéo. Voilà, donc tout ça ensemble, bah, ça fait beaucoup de contraintes et on est obligé d'essayer et on essaye de léser personne, quoi. Donc sur ce studio, on a travaillé vraiment, des fois on a placé des trucs au dernier moment pour voir vraiment si ça dérangeait pas, les axes étaient bons, etc., quoi.
Alors comme le studio est on air maintenant, quels sont les retours que t'as pu avoir des animateurs, des journalistes, ceux qui l'utilisent au quotidien?
Bah écoute, nous pour le coup, les retours que j'ai eu personnellement, parce qu'on a toujours gardé en faisant ce studio une discussion avec l'antenne, hein, c'est important, hein. Donc on a toujours discuté sur des fois nous on a des questionnements, on se pose des questions, on dit est-ce qu'on fait ça, on n'a pas toujours la réponse absolue, parce qu'on est toute une équipe à bosser là-dessus quand même, hein. Et en fait on a toujours été en lien quand même avec les animateurs, parfois certains plus que d'autres en fonction des questions qui les concernaient plus ou moins. Globalement dans ce studio, les retours qu'on a eus, très honnêtement, ils ont été toujours très bons, c'est-à-dire que les gens étaient super contents. Il y a eu quelques habitudes de travail qui ont changé forcément parce que les technologies ont radicalement changé, mais globalement tout le monde était super content une fois qu'il a pris un peu les marques, ils ont chacun pris ses marques parce que bah ils ont eu un outil qui était très ergonomique, qui répondait à leurs attentes. On a essayé de rajouter plein d'options et parfois on les a fait même au dernier moment, c'est-à-dire que quand on avait terminé le studio, ils nous disaient tiens, en fait j'aimerais bien appuyer ça et puis ça change un truc là-haut, ok allez c'est parti, on va le faire. Et donc on répond comme ça à des demandes, etc., et l'idée c'est vraiment de qu'ils aient un studio qui leur appartiennent et qui leur correspondent. Et donc, globalement, on a eu dans le monde, les gens sont... Enfin, en tout cas, tous ceux avec qui j'ai discuté étaient très contents.
Et puis maintenant, c'est la partie vidéo qui prend de plus en plus de place dans les studios. Hein. C'est du 4K désormais, oui. Hein, chez nos stars.
Ça y est, on est passé en 4K. Ouais. C'est le premier studio qu'on a passé en 4K. Alors, on sait que le streaming en 4K demain, c'est pas pour demain. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément ce qui arrive de suite. Mais il y a une logique quand même aujourd'hui de plus en plus, tout le matériel est 4K. Donc, il y a une logique d'aller vers ça. Et puis aussi, malgré tout, sur tout ce qui est travail aujourd'hui dans des réseaux sociaux qui sont beaucoup en 9-16, si tu veux, il y a aussi la logique de pouvoir recroper, retravailler l'image, etc. Mmh. Donc d'avoir un produit en fait qui est 4K aujourd'hui, ça a beaucoup d'intérêt après dans toute la partie workflow, quoi.
Alors c'est vrai que visuellement, ce studio, il est magnifique. C'est d'ailleurs la vraie tendance avec des écrans un peu partout, etc. Je me demandais, pour gérer le son, est-ce que ça a une incidence, je sais pas, pour les échos, pour les interférences?
Bah, on est ça joue aussi beaucoup parce qu'en plus c'est un studio dans lequel il y a deux grandes baies vitrées, donc mine de rien on part avec une partie acoustique qui était déjà en place, qui est pas forcément la meilleure et qu'on voulait garder parce que les gens apprécient ce côté d'avoir un côté visuel quand on passe dans l'open space de nostalgie de voir ce qui se passe. Donc voilà, après oui, c'est sûr que le fait de rajouter des écrans partout, parce qu'en fait on les voit pas vraiment parce qu'ils sont cachés par des masques, mais en effet il y a des écrans quasiment tout le long du studio. Et oui, forcément ça impacte la partie acoustique. Donc en fait, dans ce studio, on a essayé de mettre traiter autant l'acoustique qu'on pouvait le faire avec les contraintes qu'on avait, quoi. Donc on le voit pas vraiment parce qu'il est caché, mais il y a quand même beaucoup d'acoustique qui est planqué derrière pour justement limiter tous les effets qu'on pouvait avoir. Bon, la pièce étant petite, quand même, ça nous aide aussi, mais voilà, on fait quand même attention à ça, parce que on n'oublie pas que malgré le fait qu'on fasse de la vidéo, nous, on fait quand même des studios radio, et on fait de la radio, donc c'est de la radio filmée et pas de la télé, quoi. On aime bien quand même garder à l'esprit le fait que ce soit vraiment des studios radio et qu'on garde cette espèce de d'ADN de la radio, quoi. Donc ça veut dire vraiment des studios de proximité, des studios où le traitement son est important, où la qualité du son est importante, etc., quoi.
Alors j'avais une question micro, parce que j'ai remarqué que les hommes, ils avaient les Neumann, les espèces de boules rondes, hein, pour ceux qui connaissent pas trop, et les voix féminines, c'est plus je connais pas la marque, mais des micros très très fins. Il y a un choix par rapport aux voix masculines, féminines, ou c'est un hasard?
Ah, pas du tout. Alors en fait, ce qui est fait surtout dans les studios en général, c'est qu'en fait on a un BCM 104 qui est le micro Neumann qu'on retrouve dans tous nos studios, qui est souvent en fait mis sur l'animateur principal. Donc si c'est un réalisateur, enfin un animateur en DJ, il va avoir un Neumann automatiquement. Et puis sur un show en général, celui qui dit le show, on lui met un micro de cette qualité-là. L'intérêt de ces micros-là, c'est qu'ils ont vraiment une belle présence. Ils captent bien. On peut vraiment jouer avec sur la distance. Enfin, c'est des micros qui permettent pas mal de possibilités. Après, on n'en met pas partout, pas pour des choix d'humains pour le coup. C'est parce que comme c'est des micros qui captent très bien, si on en mettait partout, ça, on commencerait vraiment à avoir trop de reprises dans tous les sens. Donc en gros, on en met en fait vraiment sur les personnes un peu qui sont lead en général, que ce soit en animation ou des mornings. Et après, pour tout ce qui est co-animateur, intervenant, invité, on met des shure, des BCM qui sont hyper cardio. Ce qui nous permet justement d'éviter d'avoir trop de problématiques si on a beaucoup de micros ouverts en même temps. Quoi. Ah. Mais c'est pour le coup, c'est pas lié, c'est vraiment pas lié à homme ou femme.
Ah d'accord, je pensais que tu vois, j'étais parti sur une autre idée, mais en tout cas, c'est intéressant. Et alors, est-ce que vous n'avez pas encore cédé au BP40, parce qu'on le voit de partout en ce moment, l'Audio Technica, c'est un peu la mode.
Non. Alors, je l'ai testé personnellement et il y a une opération où j'en ai pris un, on m'a prêté, je l'ai testé et je l'ai enlevé très vite, je l'ai enlevé quasiment une heure après. Moi, la problématique, c'est un très bon micro, je critique pas, il est très bien. Mais la problématique que j'ai eu avec ce micro très vite, c'est que il récupère beaucoup il faut vraiment extrêmement bien l'isoler de la structure, parce que moi je l'avais posé en fait sur un pied fixe sur une table, et en fait dès que le mec tapait il tapait la main sur la table, je récupérais tout quoi. C'était une catastrophe. Donc je pense c'est un bon micro, mais c'est vrai qu'en effet on le retrouve de plus en plus dans d'autres radios. Nous aujourd'hui, on n'a pas de, enfin, on est content du résultat qu'on a, donc on n'a pas eu de, enfin, les tests que j'ai fait, je trouvais intéressant, mais je voyais pas une grosse plus-value, donc pour le moment, enfin voilà, on n'a pas de raison de changer quoi.
En tout cas, j'invite tous nos auditeurs à aller voir un petit peu ce que ça donne pour les images et le visuel, parce que c'est aussi ça, rendre un studio sexy maintenant, hein, celui de nostalgie. Et puis, on peut écouter, alors, entre autres, toute l'équipe à l'antenne, mais Philippe et Sandy ils font souvent des vidéos, etc., et des photos pour le show du matin. En tout cas, merci Mathieu de nous avoir présenté ce nouveau studio, et à très bientôt.
À bientôt.
Des ondes Vocast, l'invité.
C'est le star system des années 90 et 2000 sur Fun Radio, animateur culte pour toute une génération. Eh ouais, Max est l'invité des ondes Vocast. Bonjour.
Salut.
Ravi de te savoir parmi nous. On avait envie de parler de...
Tu veux dire quoi, vivant?
Écoute, ça va, non? J'ai encore vu quelques photos récemment, ça a l'air de bien se passer. Bah oui, non, mais ravi de savoir parmi nous au micro des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, qui parle de podcast, et on est des amoureux du micro. Alors justement, moi, ce qui m'avait donné envie de t'interviewer, évidemment, c'est parce que déjà, ça nous fait très plaisir d'avoir un animateur culte qui a bercé notre enfance, mais aussi d'évoquer la radio d'aujourd'hui et puis le micro dans sa globalité, parce que la vie de Max aujourd'hui, c'est celle de parler dans un micro. Alors c'est plus celui de la radio, plus tout à fait en tout cas, c'est celui notamment du micro de speaker dans les stades, et je sais pas si tout le monde est tout à fait au courant, mais le Max de Fun Radio des années 90 et 2000 aujourd'hui, il est au micro de l'équipe de France de foot. Bon, comment c'est arrivé? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années pour que tu prennes le micro de l'équipe de France de foot?
Oh, bah, c'est assez ça. Enfin, moi, je travaillais déjà, en fin de compte, dans ce genre d'animation quand j'ai décidé de changer un petit peu, parce que la radio, c'est pas que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, mais ça faisait longtemps que je faisais de la radio le soir, je voyais pas trop ce que je pouvais faire en dehors du soir, j'avais besoin de récupérer mes soirées, et donc petit à petit, je m'orientais vers une autre réflexion artistique, dans ce que je savais faire, ça effectivement, comme tu le disais, c'est d'avoir un micro dans les mains. Et moi, je travaillais déjà pour le Paris Saint-Germain.
D'accord.
Je faisais déjà énormément d'animations pour eux en privé. J'avais repris un peu comme pour les garçons, il y a un championnat féminin, il y a une section féminine qui était déjà professionnelle au Paris Saint-Germain, un peu comme Lyon, c'était les deux clubs. Et ils n'avaient pas vraiment un speaker officiel, donc ils m'avaient déjà demandé d'officialiser ça quelques années avant que je prenne l'équipe de France, donc je le faisais déjà. Donc j'avais déjà l'habitude de le faire, alors c'était beaucoup plus moins de monde dans les stades, etc. Mais l'esprit speaker, ça je l'avais déjà. Et j'avais une de mes anciennes assistantes de Fun Radio qui travaillait pour une boîte de chercheurs de tête, et ils avaient été approchés par la Fédé pour proposer des profils de speakers, parce que celui qui était en place devait partir, et donc ils ont fait appel à 2-3 boîtes, dont celle-là, et ils ont proposé quelques noms. Elle m'a dit, putain, ça pourrait peut-être te convenir, ça pourrait peut-être t'amuser, est-ce que tu veux que je propose ton nom? J'ai dit ok. Ils ont préparé un dossier, et puis mon nom a été retenu, peut-être par curiosité, mais ils savaient ce que j'avais fait et ce que je faisais déjà pour le PSG. Et puis après, j'ai passé des entretiens à la Fédé et jusqu'à ce qu'on m'annonce que j'avais été pressenti pour le faire. Donc j'ai fait un match d'essai avec les Espoirs à l'époque. Je me suis dit, voilà, je connaissais le métier en l'écoutant, mais je savais que ça allait être différent. Mais une fois que tu as le micro en main, c'est sûr que tu es dans un stade, tu as 40, 50, voire 80 000 personnes, ça résonne, il y a du décalage, tu gères des caméras, tu gères plein de petites choses. Donc,
J'allais poser cette question. Est-ce qu'il y a eu de l'appréhension les premières fois? Et bon, tu as commencé à répondre. Est-ce qu'il y a ce même amusement et ce même kiff que quand on, si on peut le comparer à la radio?
Mais c'est très différent parce que la radio et télé, même à la télé, ce qui était mon cas, c'est que je faisais pas d'émission en public, donc je savais que par les chiffres de télé ou de radio qu'il y avait du monde qui écoutait ou qui regardait, mais tu les voyais pas. Sauf que là, tu les as en face de toi. Donc oui, le premier match, je vais pas mentir, j'avais,
tu l'avais.
Par le 13, j'allais pisser toutes les 10 minutes au shot et une fois ou deux, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis aventuré dans cette histoire? J'étais bien, je faisais plein de trucs à côté, je gagnais correctement. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu? Mais j'avais besoin de défis. Puis comme je suis fan de foot et que j'adore l'équipe de France, etc., j'ai dit quand même, putain, c'est génial ce que je vis. Ça durera peut-être qu'un an ou deux. Je vais peut-être pas être bon, mais au moins j'aurais essayé. Ça représente que 7-8 matchs, donc vraiment le gros. Je serais plus emmerdé professionnellement et financièrement si je devais arrêter le PSG que l'équipe de France. Parce que le PSG, je fais une quarantaine, cinquantaine de dates, même plus. Parce que je fais même le championnat dans les salons, donc je travaille beaucoup.
Là, c'est plutôt cool parce qu'on est au sec et il y a les petits fours, donc tout va bien.
Ouais, exactement.
Justement, tu as ouvert la porte sur les autres activités. Moi, j'aimerais quand même qu'on en parle parce qu'elles sont peut-être pas tout à fait connues de toutes et tous. Par exemple, on sait qu'à un moment donné, tu as fait un peu de radio sur Nosta.
Oui.
À date, aujourd'hui, en 2024, donc il y a les petits fours et le micro pour l'équipe de France. Et sinon, c'est quoi le quotidien de Max, de notre Max à nous, quoi? On a envie de savoir ce que c'est.
Ouais, c'est très décousu parce que, avec ce que j'ai évoqué là, entre toutes les sections du PSG, l'équipe de France, malgré tout, je travaille également pour le groupe Carrefour, également pour d'autres trucs, pour des voix.
Ah ouais.
Que je fais de la maison. Ouais, je fais beaucoup de trucs. J'anime une radio en interne.
D'accord. Ok.
Qui est exclusivement pour les salariés et qui est préenregistré la veille pour le lendemain pour diffuser très tôt le matin dans les magasins.
Okay.
Donc ça me prend un petit peu de temps. Donc c'est du micro, mais c'est pas comme à l'époque en direct. Je fais beaucoup de trucs pour le PSG avec des OP même privés après à côté. Puis je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Je profite des réseaux sociaux. Je retrouve un peu la liberté et l'état d'esprit de ce que. Bah oui, parce que en radio aujourd'hui. Souvent, les gens me disent pourquoi faut que tu reviennes à la radio, etc. Alors, c'est vrai que j'ai eu très souvent, enfin, pas très souvent, mais il y a quelques années, l'envie de revenir en faisant putain. Et après, j'ai toujours la crainte de me dire, putain, ça se trouve au bout de 5-6 mois, je vais me dire, qu'est-ce que je suis venu foutre là, c'est fini, c'est plus de mon âge, ou alors je peux plus faire comme avant. Moi, je suis toujours aussi excité de faire de la radio libre, hein, je pourrais. Demain, une radio me dit, putain, Max, tu veux faire un truc tard le soir, la nuit, vas-y, mais. Je sais qu'aujourd'hui, on ne se laissera plus le choix de la musique. Il faut faire très attention à ce qu'on va dire. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, voilà, je me mets sur TikTok, moi, beaucoup.
Ah
j'ai
ouais.
3-4, j'ai 5 comptes. Je dois avoir 4-5 comptes.
Mais pourquoi?
Et je jongle d'un à un autre en fonction du.
D'accord.
Au lieu de faire un blubi-boulga de mélange de tout, j'ai un compte qui est dédié à la musique électronique, un autre qui est dédié à la musique ambiante, un autre qui est dédié à Max Animator où je fais des libres antennes où je parle un petit peu, une autre qui est dédiée exclusivement, on parlait de nostalgie aux années 80 disco funk, new wave et je jongle, donc en fin de compte je retrouve cette liberté comme à l'époque à la radio, je venais le soir, j'ai dit tiens j'ai envie de mettre un morceau de Cool and the Gang et puis un Laurent Garnier et puis après un musique de Mozart, je le faisais la nuit dans la même émission, je sais que je peux le faire aujourd'hui, je viendrai à Fun, on me dirait putain reviens ce soir, je suis pas sûr qu'on me dirait mais tu fais que, enfin fais attention, je ferai attention par rapport au contenu parce que de toute façon j'ai vieilli, je sais qu'on n'est plus dans la même époque, mais si on y a un truc sur lequel j'aurais du mal, c'est qu'on me dise par contre musicalement tu penses bien mettre le Rihanna, le David Guetta, j'ai rien contre hein, mais tu vois je veux dire non c'est pas possible parce que là c'est pas dans mon univers. J'aurais l'impression qu'en fin de compte de faire une pause pub alors que la musique que je mettais dans mes émissions c'était dans la continuité de mon état d'esprit, de ce que j'étais, de ce que ça me représentait.
Mais alors ça c'est un truc assez intéressant. Bon, moi je me souviens très bien de
génie, c'est ce que j'avais pas sur Nostalgie, c'est pour ça que j'ai accepté d'y aller parce que c'est vraiment les années 80 et ça me parlait, on me demandait de mixer en plus. Donc j'étais plus en phase avec ce qu'on m'a proposé sur Nostalgie que je pense qu'on me proposerait aujourd'hui sur une radio libre, sauf si on me disait voilà, il est tard le soir, fais attention, mais musicalement voilà, on te donne carte blanche.
Et pourquoi ça s'est arrêté Nosta alors?
Parce qu'en fin de compte, je renouvelais mes contrats chaque année. J'avais un contrat de 2 ans avec une clause de renouvellement automatique, ouais. Et on en discutait. Et j'ai fait 3 ans. Ouais. Donc déjà 3 ans avec des mini mix. Bon, ça commence un petit peu à tourner en rond. Mais la radio, la direction n'a pas souhaité renouveler. Okay. Après, parce que je suis très transparent, moi, il y a pas de problème.
Non, pas de problème.
J'aurais aimé faire une année de plus, mais après j'aurais aspiré à faire autre chose. Je voulais alors ils m'ont proposé, ceci dit, d'incarner un peu plus la radio le samedi, des choses comme ça. J'aurais aimé plus sur les réseaux sociaux. Je voulais faire des choses. Je crois que la radio, d'ailleurs, ils cartonnent.
Hein, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'ils se sont dit bon ça marche très bien comme ça, on est frileux.
Ça coûte un petit peu cher, mais je pense, et en même temps je l'écoute aujourd'hui 3 ans après l'avoir quitté, mais j'ai l'impression que ça n'a pas du tout évolué musicalement, qu'il n'y a pas de même d'émission. Il était question de faire plein de choses que finalement ils n'ont pas mises en place, peut-être plus tard, mais bon, ceci dit, les chiffres parlent pour eux.
Ouais, c'est ça.
Mais après j'aurais peut-être pu faire une tranche horaire, mais comme je disais, j'adore passer, moi c'est ma génération, les Dépêche Mode, mais une fois de temps en temps, maintenant de me dire que je vais me le taper tous les jours. Ça a peut-être été un peu plus compliqué pour moi, j'aurais pris moins de plaisir à le faire.
Tu sais qu'il y a ton ancien.
Donc du coup, j'ai monté ce compte TikTok. Donc avec TikTok, en fin de compte, je passe les années 80, mais avec plein de sons qui seraient impossibles de passer sur Nostalgie ou ailleurs, ou même sur RFM. Non, mais au moins je me lâche. Voilà. Donc,
tu sais qu'il y a un ancien, il y a un ancien de ta bande entre guillemets. Enfin, forcément, tu dois être au courant. Et c'est vrai que nous, ça, dans les ondes vocales, on s'était dit, c'est incroyable cette histoire. Sam Z fait de la radio sur Nostalgie. Tu le savais ça ou pas?
Ah non, même pas.
Alors écoute, donc Sam Z fait de la radio depuis la station locale du Mans, en fait, il habite par là, et il fait le créneau, du décrochage local. C'est incroyable comme
je savais pas, je savais pas du tout.
Bah écoute, je te propose de lui envoyer un petit SMS pour lui demander pourquoi.
Ah bah je savais pas, j'ai complètement décroché de tout ça, c'est ça aussi, c'est que... Pas du tout.
Alors justement, Max, on va parler de la radio de maintenant. Moi, j'aimerais savoir quel auditeur il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu écoutes, par exemple, hormis sélectionner des morceaux des années 80 pour les mettre sur TikTok. Quand t'es dans ta bagnole, tu mets quoi? Tu mets des radios généralistes. Est-ce que t'écoutes encore des musicales? Ouais, tu mets Spotify.
Non, c'est pas vrai. Non, ça m'arrive de temps en temps quand je fais des longs voyages, parce que j'écoute des playlists de gens ou musique électronique aux années 80 pour des fois me dire putain, ça c'est un disque que je me souvenais plus, ou je découvre des fois des artistes que je connais sur le bout des doigts et pourtant il y a un morceau qui m'a échappé. Ouais. Donc ça peut m'arriver, parce que c'est là où je suis très heureux, c'est que j'ai refait encore plein de découvertes, même dans les vieux sons de l'époque. Sinon, en radio pure média, j'écoute un tout petit peu parce que c'est mes potes et puis parce que j'aime bien, ça me fait marrer, Nostalgie. J'écoute très principalement RMC, le soir particulièrement, les afters. Quoique je me suis mis beaucoup à un truc auquel j'étais pas du tout adepte, au podcast. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts en réalité. Moi, c'était pas quelque chose que je montrais. Je suis pas non plus un télo, même à l'époque de la radio, mais j'aime bien un peu des trucs culture, apprendre des choses. Ouais. Et j'écoute beaucoup. Moi, j'ai beaucoup l'application Radio France, sur lequel dedans il y a tout, et il y a énormément d'émissions de podcasts qui sont pas forcément des émissions qui sont diffusées en radio. Donc, que ce soit France Culture, France Inter, France Info, et quand je fais pas mal d'allers-retours de bagnole en ce moment. Je me présélectionne des trucs et puis je vais écouter ça dans la voiture, et puis après un peu France Info, je zappe maintenant ce qui est voilà. Donc je suis pas un assidu de radio à fond. Des fois j'écoute en direct, hein, quand je suis par contre la voiture, oui, c'est ça qui est dingue, c'est que la voiture, effectivement, c'est la radio, beaucoup de radio, mais j'ai pas une radio que j'écoute continuellement, et j'ai pas un animateur comme à l'époque on a pu écouter, où on se tarifiait. Non, franchement non.
Ton sentiment sur la radio qui est aujourd'hui très très filmée, notamment sur RMC par exemple, c'est curieux parce que toi t'as fait toute une partie de ta carrière justement avec l'idée que il fallait absolument pas montrer sa tête et que il y avait quelque chose de très très mystérieux, alors que c'est l'inverse en fait en réalité maintenant. Donc ça doit faire bizarre un peu, non?
Bah c'est sur des formats comme ça. Après t'as des radios comme Skyrock qui est toujours là-bas, il y a plein de mecs où tu files pas à part Planète Rap, mais ils font une captation, ils font un montage, ils rediffusent après, mais t'es pas je crois en pur direct. Après, Énergie, ils diffusent rien, Nostalgie, tu vois, enfin, toutes les radios diffusent rien, quoi. Il y a des radios comme ça, il y a des concepts. Après, c'est quand t'as des, parce qu'ils utilisent des médias télé, quand t'as les France Inter, France Info, Europe 1, quand ils ont un invité politique qui le filme, pour ensuite en récupérer quelques phrases et pouvoir la diffuser sur les télés, ça c'est très bien. Moi, je trouve que il faut profiter du système et puis il faut vivre avec son temps. Maintenant, moi, la radio, effectivement, nous, on a été les premiers, on peut très honnêtement le dire, les pionniers, parce qu'avec Fun TV, à l'époque, on était les premiers à vouloir faire de la radio filmée. Moi, j'ai toujours été un peu con. Moi, c'est sûr que demain, je reviens en radio, je voudrais pas être filmé, il a été question à un moment donné de filmer un animateur qui parle juste dans une tranche musicale, mais ça n'a strictement aucun intérêt, quoi.
Montrer les enchaînements, tu sais, sur la table.
Moi, voilà. Je regarde le matin, je crois que je suis tombé une fois ou deux, je crois que c'est RTL2 qui filme la matinale pour W9, quelque chose comme ça, je suis tombé dessus. J'ai regardé deux fois, j'ai dit, c'est pas possible. Je vois pas les mecs en train de se curer le nez, pendant qu'il y a un disque, il y a le clip, mais pendant une pause pub ou pendant un truc. Putain, mais, franchement, là, c'est, pour moi, c'est comblé, quoi. C'est du comblage pour du comblage. Et puis, de se dire le matin, j'ai une sale gueule, faut que je pense quand même avoir un sweat propre, être bien coiffé, un peu de maquillage. Même si l'animateur reste assez naturel, hein, il est même bon, mais voilà. Moi, j'ai toujours dit, à part peut-être pour certains concepts, mais dans ce que je faisais le soir, comme je disais toujours, la radio, ça s'écoute, la télé, ça se regarde, mais moi, j'avais pas à m'imaginer que je ferais de la radio libre et comme je faisais le soir ou la nuit et que ça soit filmé, qu'on puisse le voir à la télé, quoi. Alors après, on a trouvé une petite parade avec, on faisait ça en, moi, on me voyait pas, ou c'était très tamisé, ou c'était en nombre chinoise. Donc on voyait
je me
pas
souviens bien. Oh oh.
Donc ça m'amusait parce que c'était un peu l'esprit Daft Punk, voir sans voir. Et dire,
t'es au courant que tout le monde voulait connaître ton visage. Hein. Il y a même un magazine, après, je crois qu'il y a un magazine à un moment donné qui avait lancé des photos de toi, mais on les voyait pas. Je sais plus quel était ce magazine.
Non, j'étais toujours de dos. Je faisais ça même avant que les Daft ne fassent des masques et des trucs. Après, comme je disais, si vous voulez me voir, je mixe, hein, je me cache pas, hein, je suis pas, je viens mixer en soirée. Les Daft Punk, ils leur arrivaient de mixer pour être banger pour des soirées, et ils venaient pas avec des masques, hein, tu les voyais. Sauf que le concept de Daft Punk, c'était ça. Moi, le Star System, c'était comme ça, c'était de la radio. C'était plus pour faire un pied de nez, et c'était inconsciemment, mais c'était, je pense qu'avec du recul, c'est une façon de se démarquer un peu des autres, mais c'était pas un projet. Je me suis pas dit, ça, je vais faire ça, personne le fait, comme ça, ça passe ou ça casse.
Oui, c'était peut-être un peu marketing aussi, on va se dire les choses. C'était pas nécessairement.
Ah non, même pas. C'était juste pour faire chier le monde, c'était juste pour un délire. Non, il y avait pas de marketing à l'époque, il y avait pas de réseaux sociaux, on n'a pas communiqué là-dessus. Ça s'est fait, non, au contraire, c'est justement l'inverse, c'est que je me suis fait ça dans un délire en pensant que ça allait durer 6 mois et que peut-être moi-même, ça allait me saouler de faire des photos dédicacées de moi de dos ou quand j'étais petit. Et puis, en fin de compte, à un moment, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est rigolo, on va continuer, mais oui, un peu de marketing. Alors, c'est vraiment, on s'est jamais réunis avec une agence de pub ou avec Fun Radio, avec les mecs, genre, putain, il y a un truc à faire, ça va faire du business, ça va bien fonctionner. Franchement, j'ai vendu aucun t-shirt, aucun disque, aucun truc de dos. Enfin, tu vois, j'en ai pas profité. Après, tous les week-ends, j'allais mixer pour des soirées techno. Donc, je mixais pas derrière un rideau. Donc là, on voyait ma gueule. Hein.
Quel est ton regard sur la bande FM que tu as connue, toi, c'est-à-dire David, Difool, Bruno Guillon, Manu un peu aussi, qui quand même, mine de rien, faisait partie des gens de ta génération, de ton
entourage. Ah bah oui, bien sûr, on a démarré ensemble.
Eux, ils sont toujours à l'antenne. Alors, c'est quoi le truc? C'est de se dire, ils s'accrochent Est-ce que t'es un peu envieux, ou alors c'est encore vachement bien, comme Difool, c'est super.
Non, je suis pas envieux. Déjà, je suis pas envieux parce que tu parles de Bruno, que je connais pas très bien, un petit peu comme ça, on s'est plus croisés parce que il a fait une très grosse partie dans le groupe Énergie et moi j'étais à Fun Radio, donc on s'est croisés plutôt sur la fin. Ouais. Et Manu, on se connaît depuis l'âge de, on a commencé, on était stagiaires ensemble à 19 ans, donc on se connaît depuis tout jeune. Non, je les en dis pas parce que déjà ils font les matinales et je me vois pas faire ce qu'ils font depuis tant d'années, donc ça du tout. Puis David dit Difool, c'est-à-dire qu'en plus on habite à 300 mètres l'un de l'autre, donc on se croise de temps en temps. Et c'est dingue qu'ils aient pu continuer. Moi j'aurais pu finalement être avec eux, hein, si j'avais décidé de continuer sur Fun le soir, ou si même en partant j'avais demandé à travailler ailleurs. Mais j'avais des opportunités, j'aurais pu très bien me retrouver dans leur cas encore aujourd'hui à te parler et à faire encore de la libre antenne le soir. Et putain, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'arrêtais, j'ai pas voulu reprendre. J'ai eu des projets qui étaient pas, qui me plaisaient pas plus que ça en radio, puis je suis parti vers d'autres directions. Et quand ils cherchent des nouvelles têtes, quand ils cherchent des nouvelles personnes, ils les trouvent pas. Donc, il y a eu Guillaume Play, il y a eu Morat, il y en a qui avaient plus ou moins du talent, mais bon, ils ont pas tenu, quoi. Ou ils ont pas tenu parce que sur du long terme, ils n'y arrivent pas. Ou alors parce qu'ils ont fait des conneries, de la merde, ou parce qu'ils étaient compliqués à vivre et que du coup, c'est compliqué.
Ouais, donc pas de nostalgie par rapport à ça, pas d'envie.
Aucune. Même de mon époque, ça me ferait. Enfin, quand j'aurais de la nostalgie si aujourd'hui on pouvait faire le. Si j'entendais un mec, David le fait un peu du fou, mais à se lâcher, à se dire, putain, il y a encore un mec qui décolle le soir, il met de la musique, il rigole, il a une certaine liberté. Franchement, non. Je ne vois pas aujourd'hui, 21h, reprendre la radio à 21h avec l'été plein badin, journée, plein jour, avec 10 000 machines, parce que maintenant les studios aussi, t'as plus de platine, t'as plus rien, tu peux plus rien faire en manuel, et tout est informatisé, donc même limite t'as envie d'improviser, t'as envie de mettre un disque, il y a même plus un vieux lecteur CD, une vieille platine vinyle qui traîne pour pouvoir. Non mais.
Ouais, et c'est pas totalement vrai, il suffit d'ouvrir la tranche Spotify, tu vois, et puis c'est bon, je pense que ça peut le faire, mais je comprends ce que tu veux dire.
Sur Spotify, il y a plein de choses que je cherche, franchement, il y a plein de choses que j'adore, que je mettrai le soir, que tu trouves pas même pas. Donc, il y a pas tout, hein. Il y a des artistes, t'as pas tous les albums, t'as pas tout, donc ça solutionnerait même pas le problème pour moi. Si j'ai envie de mettre une délire, un vieux truc, une vieille pub de Gotenner, une vieille connerie, bon, tu peux aller sur YouTube, ouais. Mais je trouvais ça, c'est ça qui était charmant, c'était t'arrivais avec tes disques, tu faisais la prog, d'un coup tu dis ah putain, puis tu cherchais un disque, tu sentais que moi j'adore ça. Voilà, moi c'est ma génération, c'est comme ça que je suis bon, c'est comme ça que je me sens à l'aise, c'est un peu dans ce truc-là. Mais pour revenir à ce qu'on disait, donc il y a sûrement encore des choses à faire. C'est vrai que souvent on me dit mais pourquoi tu vas pas sur Twitch, pourquoi tu vas pas machin. Je dis oui, mais bon, c'est pareil, c'est l'image. Alors maintenant je m'y suis fait sur les réseaux sociaux. À être filmé, quand je mixe et tout, j'adore ça, je joue avec la caméra, ça marche très bien, j'ai de plus en plus de monde qui viennent me suivre, ouais, ça c'est génial. Après je le fais pas assez régulièrement parce que mon emploi du temps le permet pas toujours, mais c'est vrai que si je me disais tiens pendant 6 mois, 1 an je vais voir si je peux pas développer un truc, je m'y mettrai à fond, il faut des moyens, il faut des équipes, il faut des petits jeunes quand même qui maîtrisent le sujet, j'arrive à bien décoder les trucs, mais je comprends pas tout et j'ai pas le temps. Mais les réseaux sociaux me permettent de m'épanouir, ce qui fait que du coup j'ai pas cette aigreur ou cette frustration de me dire putain j'aimerais bien revenir en radio pour faire, si je peux. J'ai refait une fois sur TikTok, sur un de mes comptes, une libre antenne où j'ai mis une photo de moi, donc en fond vert on ne voyait pas physiquement, ouais. C'était juste de l'audio, et encore je prenais avec mon téléphone par une console, donc je pouvais même pas faire d'insert téléphonique, juste de parler avec des gens et de répondre au chat. Mais j'avais, alors ça restait très faible, hein, mais par rapport aux audiences, j'avais 400 personnes en live, et puis ça partait dans tous les sens, et les gens se marraient, et je sentais que, voilà, à la fin de l'émission, tu récupères 500, 600 nouveaux abonnés. Enfin, moi, j'adore ça, c'est challenge-là, je dis putain, comme à l'époque de Fun où je commençais, je voyais les audiences monter petit à petit, et j'adore ça.
Bon, dernière question, justement, Fun Radio. Est-ce qu'il y a, un moment particulier, est-ce qu'il y a un climax un peu de ce star system, est-ce que tu te souviens d'une saison particulière qui était vraiment une époque bénie, ou toi tu vois ça plus dans une espèce de globalité?
Il y a eu 5-6 ans vraiment très fortes, dont avec Jenny au tout début, ouais. Où je me souviens avoir eu des quarts d'heure, je crois que je les ai gardés parce qu'à l'époque les animateurs étaient certains, j'en faisais partie, on pouvait les récupérer. Je crois qu'on avait des quarts d'heure qui avoisinaient les 450 000 auditeurs à 22h, quand je vois qu'aujourd'hui les émissions du soir ou l'after sur RMC sont tout fous quand ils font 150 000, 200 000, nous en deux fois et demi, et en plus on durait toute la longueur. Moi je me souviens d'un quart d'heure où à minuit et demi j'étais à 200 000. C'était phénoménal. Donc
j'étais là, c'est moi qui écoutais aussi, hein. Le lendemain à l'école il fallait qu'on débriefe.
il y avait du monde, non mais c'est ça qui me faisait plus marrer, c'était plus le fait de me dire à 2h ou 3h du matin, à 2h30, si je faisais une connerie, un jeu, un blind test, et qui veut jouer, je disais, on va avoir 3 coups de pied, on avait 24 lignes, les 24 lignes sonnaient. Enfin, c'était dingue, quoi. C'était ça qui était dingue. C'est ça qui était génial. C'est qu'aujourd'hui, apparemment, plus personne n'appelle. Donc, c'est pour ça que même quand je me dis que je referai de la radio le soir ou la nuit, je ferai un truc très tard, peut-être pas avant même 23h, pour retrouver un peu l'état d'esprit de le soir et de la nuit, de peut-être imaginer que les gens, peu importe la génération qui écouterait la radio, serait peut-être concentré à écouter qu'une chose. D'ailleurs, moi, quand j'écoute l'after ou les trucs sur RMC le soir, quand je vais me coucher à 11h, 11h30, des fois dans mon pieu, je mets mon casque en Bluetooth Et là, j'écoute la radio, j'écoute la dernière demi-heure ou trois quarts d'heure, des fois en vrai direct, comme à l'époque.
Bah, ça fera très plaisir à Gilbert Bribois et Daniel Riolo, je pense, de savoir.
Ah bah, je les connais bien.
Ils ont Max, le Star System, comme fidèle, comme fidèle auditeur.
Ouais, j'adore.
Ça nous a fait plaisir, en tout cas, de t'avoir et de prendre un peu des nouvelles. Donc, une vie au micro de l'équipe de France. Et puis, donc, on a appris, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai appris qu'il était de retour, notamment sur TikTok. Alors, faut chercher, il y a plusieurs comptes. Mais globalement, pour trouver Max sur TikTok, on fait quoi?
Il y en a un qui est très simple. Il y a sur TikTok, il y a La Max Radio.
Ouais,
parce que
okay.
C'était le nom d'une radio que j'avais sur Internet. Donc, La Max Radio, là, il y a 45 000 abonnés. Je fais de temps en temps des lives. Et. Il y a un compte qui marche très très bien sur les années 80 qui s'appelle 3615 La Boum. Voilà.
3615 La Boum.
3615 comme le Minitel et La Boum comme le film. Comme le film, pas La Boum, B-O-O-M et B-O-U-M comme 3615 La Boum. Et là, c'est les années 80. Et là, par contre, je fais souvent assez régulièrement, une à deux fois par semaine, des mix en direct, New Wave, 80, disco, funk. 100% français. Enfin là, je m'éclate total avec des
j'irai regarder ça avec mon téléphone Bebop. Hein, d'accord, on va faire ça comme ça.
Voilà, exactement. Oui.
Merci beaucoup, Max.
De rien, avec plaisir.
Des ondes vocastes.
Des ondes vocastes.
L'univers de la radio.
L'univers de la radio.
En podcast.
En podcast.
Vocast.fr pour nous contacter. Merci Rémi, merci Olivier et merci aussi à nos invités, ainsi qu'à vous, chers auditeurs. Merci de nous écouter toujours plus nombreux. Partagez ce podcast autour de vous, abonnez-vous et continuez d'être passionnés par la radio et par le podcast. Ciao.